Le Fourya Rétro Podcast. Le Fourya Rétro Podcast, c'est une machine à remonter le temps du football espagnol. Ce premier numéro, nous nous devions de le consacrer au Clásico, emblème de la Liga, une des plus grandes rivalités au monde. Si le Barça-Real Madrid du 23 novembre 2002 n'a pas donné de but, il reste en revanche marqué par la haine du Camp Nou pour Luis Figo, ancien héros blaugrana, devenu le premier galactique de Florentino Pérez. Un match étouffant, qui restera comme celui où le Portugais a failli recevoir une tête de porc sur le crâne. Luis Figo et le Clásico del Cerdo, un épisode écrit et lu par François-Miguel Boudet, réalisé par Thomas Galarrague. Le Barça et le Real Madrid ne sont pas des clubs comme les autres. En Espagne, ils cristallisent l'antagonisme entre le pouvoir central de la capitale et l'esprit de rébellion de la Catalogne, son besoin de se démarquer économiquement et culturellement. Le catalan face au castellano, le blaugrana contre le merengue, le Total Camp contre le Alla Madrid Inadamas. Ce 23 novembre 2002, une pluie fine d'automne s'abat sur Barcelone. Ce n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit de Clásico. Forcément, l'atmosphère est plus lourde, la tension palpable. C'est le retour au Camp Nou de Luis Figo, l'idole devenue traître. Depuis son transfert au Real Madrid en 2000, ce n'est pas la première fois qu'il revient à Barcelone. Le Portugais a déjà disputé un match dans le stade de ses premiers exploits en Espagne, le 21 octobre 2000. Ce soir-là, Figo avait été accueilli par des banderoles assassines et une pagnolade de mouchoirs blancs à son entrée sur la pelouse. Le Barça l'avait emporté 2-0 avec des buts de Luis Enrique, qui était passé directement de la Casablanca au FC Barcelone en 1996, et du Portugais Simão Sabrosa. Arrivé au Barça en 1995 sous l'impulsion de Johan Cruyff en personne, Figo a fait toutes ses classes au Sporting, le club supporté par son père, un élément décisif au moment de choisir entre les Lions et les Aigles de Benfica. Une décennie en vert et blanc, marquée par un titre de champion du monde des moins de 20 ans en 91, à domicile, avec la génération dorée entraînée par Carlos Queiroz, où figurent notamment Jorge Costa, João Pinto et Rui Costa. Figo est le maître à jouer du Sporting quand, au mi-temps des années 90, il désire davantage de considération de la part de sa direction, après une décennie passée chez les Lions. Guère satisfait par les réponses obtenues, il a des envies d'exil. Mais ce n'est pas l'Espagne qui est ciblée en premier par ses agents. C'est l'Italie. En 95, le calcio est ce qui se fait de mieux dans le monde. Alors Figo a décidé, ce sera Parme. À l'époque, le club d'Émilie-Romagne est une valeur très sûre, non seulement dans la botte, mais aussi en Europe. Soutenu par la puissante Parmalat, un poids lourd de l'industrie des produits laitiers, Parme dispute 3 finales européennes de rang, remportant la Coupe des Coupes en 1993 et la Coupe de l'UEFA en 1995 en battant la Juventus, ainsi que la Super Coupe d'Europe en 1993 aux dépens du Milan de Silvio Berlusconi. En championnat, les Gialloblu s'invitent sur le podium en terminant 3e en 1993 et en 1995. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Dans le même temps, les représentants du Portugais sont engagés avec la Juventus, plus généreuse financièrement que Parme. 2 contrats pour un seul joueur, c'est forcément un de trop. Alors la FIFA tranche, Luis Figo est interdit de jouer en Italie pendant 2 saisons. En revanche, il peut s'engager où il le désire partout ailleurs. Et voilà comment le crack de 22 ans débarque en Catalogne pour 13 millions de francs et Parme récupère une option prioritaire pour recruter le bulgare Hristo Stoïkov, ballon d'or en 1994, option qui sera levée immédiatement. Au Barça, Luis Figo se fond dans le décor et prend les clés du jeu blaugrana. Une sacrée performance pour celui qui a été présenté comme le successeur de la légende Mikel Laudrup, parti au Real Madrid. D'abord avec Johan Cruyff, avec Bobby Robson et Luis Van Gaal ensuite, le Portugais enchante le côté droit blaugrana. Avec le gaucher Rivaldo arrivant en 98, il forme un duo technique et décisif. En froid avec Van Gaal, Pep Guardiola est destitué de son capitana. Le brassard est transmis à Luis Figo. Une reconnaissance qui va de pair avec la clause libératoire exigée par le FC Barcelone lors de sa prolongation de contrat. 200 millions de francs, 30 millions d'euros, une vraie fortune pour l'époque. Avec le FC Barcelone, le Portugais remplit son armoire à trophées. 2 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, une Super Coupe d'Espagne et une Coupe des Coupes glanée en 97 après une victoire en finale contre le PSG. En 2000, Figo est au sommet de son art. Les supporters blaugrana l'adulent. Mais le Barça vit un moment de transition institutionnelle. Victime des mauvais résultats du club, le président emblématique, Josep Luis Núñez, est contraint à la démission. Le vice-président, Joan Gaspart, est le favori à la succession, mais la victoire n'est pas encore acquise. Le milieu offensif aimerait bien profiter de cette période de flottement pour obtenir une revalorisation salariale en adéquation avec son influence sur le jeu de son équipe. Il n'y a pas que le FC Barcelone qui se prépare à de nouvelles élections. C'est également l'effervescence au Real Madrid. Le mandat de Lorenzo Sanz arrive à son terme en 2001 et il est convaincu que les deux Ligues des Champions remportées en 1998 et en 2000 lui assureront la victoire. Alors, confiant, il convoque des élections anticipées. Mais les choses ne vont pas exactement se dérouler comme il avait espéré. Son principal adversaire est un illustre inconnu pour le madridisme. Il s'appelle Florentino Pérez. Grand patron dans le BTP, Pérez connaît ses classiques en matière de conquête du pouvoir dans le football espagnol. Et ce n'est pas dans l'histoire du Real Madrid qu'il conçoit sa tactique de conquête du pouvoir, mais dans celle de l'éternel rival, l'Atlético de Madrid. En 1987, Jesús Gil, également entrepreneur, rêve de devenir le nouveau président des Colchoneros. Loin d'être favori, il lui faut un gros coup pour devancer ses rivaux. Ce gros coup est portugais et il s'appelle Paulo Futre. Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec le FC Porto au Prater de Vienne, finale marquée par la talonnade 2 au but d'un certain Rabah Majer, Paulo Futre est ce qu'on appelle un fichaje estrella, le transfert star, comme jamais l'Atlético de Madrid n'en a eu. Gil a obtenu l'accord de Futre. En d'autres termes, s'il est élu, le milieu offensif arrivera dans ses bagages. De quoi sacrément donner envie de voter pour Gil. Pour devancer Sanz, Florentino Pérez le sait. Il doit impérativement avoir un atout dans sa manche. Alors, il emploie la même tactique que Gil. Et pour attirer Luis Figo, Pérez a le meilleur des messagers, Paulo Futre lui-même, idole de Figo, qui est considéré comme son digne successeur et qui partage en plus le même agent, José Veiga. En réalité, Figo ne sait pas que Futre est en cheville avec Pérez. C'est Futre lui-même qui l'a expliqué dans sa biographie autorisée, intitulée simplement « El Portugués ». Si Futre parvenait à convaincre Figo, Pérez s'engageait à lui verser une prime d'1 million d'euros, largement de quoi mettre de côté son amour de l'Atlético de Madrid. En confiance, Figo expose sa situation au Barça, le manque de considération de Núñez, les atermoiements de Gaspard, son envie malgré tout de ne pas passer pour un traître en signant au Real Madrid. En réalité, Figo veut se servir de l'offre Merengue pour revaloriser son contrat en Catalogne. Mais Futre sait être convaincant. Une carrière, c'est court. Florentino Pérez va mettre beaucoup d'argent sur la table, celui qu'un joueur de son acabit mérite. En signant au Real Madrid, il aura aussi plus de chances d'être sacré ballon d'or après son excellent euro avec le Portugal. Et puis, une fois les crampons mis au clou, la gloire s'envole et l'oubli devient la norme. Figo écoute et décide de franchir le Rubicon. Dans la presse, pourtant, il le jure, il restera Blaugrana et non, il n'a jamais négocié avec la Casablanca. Or, dans la coulisse, les représentants du Portugais s'activent. Florentino Pérez promet de quintupler le salaire du joueur avec une énorme prime pour Veiga, entre 4 et 5 millions d'euros. Un pré-contrat est signé. En 2018, invité dans l'émission Universo Baldano, Figo est revenu cet épisode. Les choses sont devenues sérieuses au point d'avoir un accord avec un candidat à la présidence. Je n'ai pas vu cet accord, mais on en a parlé. Si je n'allais pas à Madrid, je devais payer pour tous les abonnements des socios pendant un an. C'est mon représentant qui avait signé, pas moi. Je n'avais rien signé avec personne. Malin, Pérez a ajouté une clause quasi léonine dans ce pré-contrat. Si Figo ne signe pas au Real Madrid, son agent devra verser 35 millions d'euros au club. Quelques années après l'imbroglio Parme-Juventus, le Portugais se met de nouveau dans une situation inextricable. Le clan Sanz a commis une erreur. Il n'a pas pris au sérieux l'idée folle de Pérez qu'il affirme publiquement « Si Figo ne signe pas au Real Madrid, il promet de payer tous les abonnements des socios pour la saison 2000-2001. » Mais il omet de préciser que c'est avec l'argent de Figo, comme stipulé dans le pré-contrat. Pour le Portugais, la seule solution pour s'en sortir, c'est la victoire de Lorenzo Sanz. Mais c'est bien Florentino Pérez qui l'emporte en juillet 2000 et qui sera le président du Real Madrid pour le centenaire du club. Figo n'a pas vraiment envie de rejoindre le Real Madrid, d'autant qu'il craint pour sa sécurité et celle de sa famille à Barcelone. Sur le plateau du Chiringuito en 2018, Paulo Futre a donné sa version de ce transfert qui a fait date. 3 jours avant le résultat des élections, Luis a commencé à voir dans quoi il s'était mis. Il y avait des menaces de mort, et quand son épouse s'est rendue compte de tout ça, Luis a dit à Veiga qu'il n'irait jamais à Madrid. Le souci, c'est que le contrat était signé. Quand Florentino a gagné, Veiga pleurait, et Luis était au bord des larmes. Alors, Figo abat sa dernière carte. Il demande à Joan Gaspalt de payer la clause de 35 millions d'euros pour enfouir son agent. Gaspalt refuse. Alors, comme promis par Florentino Pérez aux socios de la Casablanca, Figo signe au Real Madrid pour 65 millions d'euros, un record. Il n'est pas encore ballon d'or, mais c'est d'ores et déjà le premier galactique d'une longue série. Son transfert fait basculer l'histoire du Real Madrid, mais aussi de tout le football mondial qui entre officiellement dans le 21e siècle. Retour à ce 23 novembre 2002. Ce premier classico de la saison compte pour la 11e journée de Liga. Le Real Madrid est 5e avec 17 points, le Barça 10e avec 15 unités au compteur. Le Real Madrid est entré sur la pelouse en premier, emmené par son capitaine Raúl González Blanco, et les Merengues se retrouvent au centre de la pelouse quelques instants, puis prennent la pause pour la traditionnelle photo d'avant-match. Quand les coulées font leur apparition, l'hymne du club retentit, le public exécute un tifo avec des cartons où sont écrits « Soc del Barça »,« Je suis du Barça ». Luis Van Gaal ne peut s'empêcher de se retourner vers la tribune et d'esquisser un sourire. Luis Figo le sait, un traitement spécial lui sera accordé par le public et par ses anciens coéquipiers. C'est un déferlement qui s'abat sur le ballon d'or. Insultes en tout genre, jets de gobelets, de bouteilles, de briquets, de restes de bocadillos, de pièces de monnaie destinées à celui qui est désormais appelé le pesetero, un mercenaire qui a trahi pour de l'argent. Sur le terrain, Luis Figo est suivi comme son nom par Philippe Cocu, le capitaine Blaugrana, qui lui inflige la première faute de la partie. Le Portugais réplique quelques minutes plus tard, avec un pisoton qui lui voit un avertissement de M. Medina Cantalejo sous la bronca du Camp Nou. Le rituel est le même, à chaque prise de balle, Figo est copieusement conspué. Tout le stade reprend un chant que connaîtra très bien Cristiano Ronaldo quelques années plus tard. « Ese portugués, hijo puta es », qui ne nécessite aucune traduction. Très présent en début de match, Figo est moins visible à mesure que le Real Madrid recule sous les assauts imprécis du Barça. Le sommet de la bronca catalane est en première période quand le Real Madrid obtient un corner. Le Portugais ne se dégonfle pas et va le tirer, suscitant l'ire des spectateurs à proximité. Nouveau corner, cette fois-ci de l'autre côté. Même joueur, même déchaînement. Une simple mise en bouche par rapport à ce qu'attend le numéro 10 Merengue en deuxième période. Quoi de mieux qu'une erreur d'arbitrage pour faire grimper la température encore davantage? Deux minutes après le coup d'envoi du second acte, le Barça trouve enfin la faille. Xavi Hernandez a récupéré le ballon au milieu et oriente le jeu sur le côté gauche Blaugrana en direction de Thiago Motta. Le Brésilien, pas encore un oriundo italien, transmet à Patrick Kluivert qui se retrouve collé à la ligne de touche face à Iban Elguera. Kluivert redonne à Motta qui cherche Juan Román Riquelme mais la passe est contrée par un madrilène et la balle sort en touche. Cocu joue une touche longue qui ricoche sur la tête de Motta et de deux Merengues. Gabri tente une frappe en première intention dans son angle fermé, mais Elguera repousse sur Cocu, qui tente sa chance de voler. Sa frappe n'est pas du tout inspirée, mais elle arrive droit sur Gaïska Mendieta, qui talonne pour Gabri à la lutte avec Elguera. Convaincu que le Catalan va pousser le ballon au fond des filets, Iker Casillas se jette, mais Gabri joue en retrait et offre une passe décisive à Kluivert, qui marque. La joie barcelonaise est de courte durée. L'arbitre assistant a levé son drapeau. Hors jeu de Gabri. Le but est certes annulé, mais le ralenti est pourtant formel. Gabri n'était pas hors jeu au moment de l'inspiration de Mendieta. Le but de Kluivert devait donc être validé. De quoi rajouter un peu d'huile sur le feu dans une atmosphère déjà très tendue. Jamais lassé de le conspuer, le public du Camp Nou continue de vouer Figo aux gémonies chaque fois qu'il reçoit le ballon. À la 72e minute, le Real Madrid obtient son premier corner de la deuxième période. Cette fois, Figo est devant le virage occupé par les Boxershorns, les ultras les plus vindicatifs du Barça. La tension atteint son paroxysme et la police anti-émeute doit être déployée pour permettre aux Portugais de frapper. Il répond aux menaces par une tentative de gol olympico, un corner direct. Que se serait-il passé sans la vigilance de Roberto Bonanno qui a bien failli être surpris par la trajectoire? Nouveau corner, de l'autre côté. Et toujours Figo pour frapper. Entre-temps, les caméras de la télévision espagnole filment la pelouse. Une bouteille de whisky a été balancée. La fouille à l'entrée du stade a dû être intense. Les Merengues refusent de poursuivre le match, car les Spoyols demandent aux supporters de se calmer pour que la partie puisse se terminer. Mais cette fois, M. Medina Cantalejo arrête les frais. Le match est suspendu et deux équipes sont priées de retourner au vestiaire pour désamorcer un stade devenu une arène pour les gladiateurs réclamant de voir couler le sang du traître. Mais ce n'est pas le projectile qui restera le plus dans les mémoires. À quelques pas du poteau de corner où Figo a failli marquer, c'est bien une tête de porc qui a été jetée sur la pelouse. Oui, une tête de porc cuisinée, luisante de graisse, comme on peut le voir dans les devantures des boucheries, prête à être vendue. Le Portugais n'a pas le temps d'admirer le travail de cuisson. Ni lui, ni les caméras n'ont vu le projectile insolite qui s'est échoué dans le dos du numéro 10 Mélengue à quelques centimètres de lui. Quelques années plus tard, dans une interview accordée au journaliste britannique Sid Love, Luis Figo a eu une réponse volontiers bravache. « Je ne l'avais pas vu. Si cela avait été le cas, je n'aurais mangé un morceau de ce porc, en apéritif. » Finalement, après un quart d'heure d'interruption, le match reprend et va à son terme, sans que le tableau d'affichage ne bouge. Un 0-0 sans saveur et un classico qui restera donc marqué par le jet de cette tête de porc sur la pelouse du Camp Nou. Après ce match, le Barça recevra une amende ridicule de 4000 euros ainsi qu'une suspension du Camp Nou pour deux matchs, sanction qui ne sera jamais appliquée. Invité du célèbre programme radio El Larguero sur la Cadena Ser en septembre 2019, Joan Gaspart, le président du FC Barcelone de l'époque, est revenu sur ce classico resté dans les mémoires. « Je peux vous assurer que si on avait voulu toucher Figo, on l'aurait touché. Avec la quantité d'objets qui ont été jetés, y compris la tête de porc, personne n'a voulu le toucher. Il provoquait en allant tirer les corners et jouer dans la zone des supporters. Oui, il provoquait. Je le dis sérieusement. S'il avait été intelligent, sachant que le public était mécontent, il l'aurait évité. » De quoi rester pantois. De son côté, Guti a une autre analyse. Ce classico a été un moment clé dans l'histoire de Figo sous le maillot du Real Madrid. Quand il s'est rendu compte que tous étaient contrôlés à Barcelone, il est définitivement devenu madridiste. Effectivement, même si Figo a passé 5 saisons dans chaque club, c'est bien sa période Merengue qui est davantage restée dans les mémoires, alors même que c'est peut-être bien chez les Blaugrana qu'il a été le meilleur. C'était le premier épisode du Furia Retro Podcast. Retrouvez-nous sur furialiga.fr. Hasta luego. Ciao. Adeu.